Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Presidency.
Mr. President.
President.
On dit du président des États-Unis qu'il est l'homme le plus puissant du monde, qu'à lui tout seul, il peut faire chavirer la planète depuis son bureau ovale. Tout l'été, sur France Inter, c'est là que nous vous emmenons, à la Maison Blanche, à la rencontre de 8 présidents américains face à l'exercice du pouvoir. Vous ferez connaissance avec des hommes brillants, des fades, des vulgaires, de grands stratèges politiques, des indécis. L'histoire a presque oublié certains d'entre eux, d'autres ont encore leur visage sur les billets de banque. Mais ils ont un point commun. En incarnant à un moment l'histoire de leur pays, ils ont aussi bouleversé l'histoire de la fonction présidentielle. Chacun de ces hommes, à sa manière, nous dit aussi qui est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique.
Mr. President.
Fabienne Synthès sur France Inter.
Aujourd'hui, épisode 8, Ronald Reagan, America is back.
90 seconds and counting, the 51L mission ready to go.
In Los Angeles, where it is 3 hours earlier than Florida, NBC's affiliate KNBC decided to cover the launch live.
This is a special report from Channel 4 News. Good morning, I'm Ken Shocknick in Space Shuttle Challenger. It's just a few seconds away from blasting off from the Kennedy Space Center near Cape Canaveral, Florida. Let's take a look.
Ronald Reagan est un type sympa. Il est du genre à qui on tape dans le dos, il n'aime pas les longues analyses, il gouverne à l'instinct. Lors de sa première investiture, il dépliera un papier de sa poche et fera un discours de 15 petites minutes. Il a été acteur, il est l'ami de John Wayne, il porte des chapeaux à large bord. Mais Reagan, c'est aussi une rupture, presque une révolution, un conservatisme parfois brutal, une politique sans état d'âme. En 8 ans de mandat, il creusera les inégalités de son pays, l'entraînera dans une course à l'armement destinée à briser l'Union soviétique et renouera avec l'impérialisme d'antan. Reagan, c'est également le président qui voudra rendre sa fierté à l'Amérique et le vrai propriétaire du Make America Great Again. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Notre historien, agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, accompagnateur tout cet été, Ronald Reagan, Corentin, considéré toujours aujourd'hui comme l'un des plus grands présidents des États-Unis ?
Oui, pour l'ère contemporaine, depuis 1945, l'un des plus grands présidents des États-Unis et pour le parti républicain actuel, la référence indépassable, le parti républicain actuel se considère comme le parti de Reagan.
Ça veut dire que tout le monde est jaugé aujourd'hui à l'aune de Ronald Reagan. On va pas déflorer ce qu'on dira à la fin de l'histoire, mais Trump aussi, donc.
Oui, oui, absolument. Il y faisait d'ailleurs mention régulièrement en 2016 lors de la campagne, parce que c'est un homme qui a profondément bouleversé le parti républicain en faisant une formation conservatrice, religieuse, à dominante évangélique, et qui a aussi bouleversé, j'allais dire, la façon peut-être de gouverner les États-Unis.
Alors est-ce que c'est lui, ou à cause de lui, qu'on prie avant chaque réunion, qu'on baisse la tête, qu'on invoque Dieu ? Est-ce qu'on le faisait pas avant Ronald Reagan ?
On le faisait beaucoup moins. Il a systématisé cette référence religieuse, puisqu'il a été soutenu par des mouvements évangéliques. Et on se souvient en particulier que lorsqu'il reçoit l'investiture du Parti républicain, dans un geste qui était jusqu'alors inédit, il demande à chacun des membres présents dans la salle de se recueillir et de faire une prière. Et cette référence à Dieu et à la religion devient une constante de sa façon de gouverner.
Il y a une dernière chose, Corentin, dont je voudrais qu'on parle un tout petit peu avant d'entamer le récit. Il a cette réputation d'être bête, en fait, Ronald Reagan. Est-ce qu'on en fait trop là-dessus ? Est-ce qu'il y avait un fond de vérité ? Et là aussi, ça nous rappelle peut-être quelques souvenirs. Donc, c'est quoi la vérité ?
Non, ce qui est bien établi aujourd'hui, c'est que c'était un homme qui n'avait pas une forte capacité de travail, qui considérait aussi avoir droit à son temps libre, et qui faisait énormément confiance à ses conseillers. Et justement, peut-être dans un jeu de pouvoir un petit peu pervers, c'est beaucoup de ses conseillers qui étaient investis d'énormément de responsabilités, qui ont eu tendance à accréditer cette image d'un imbécile qu'on menait pour justement se valoriser eux. Donc oui, un président, et on en reparlera, peut-être pas très proactif, mais certainement pas l'idiot qu'on a parfois décrit complaisamment.
Merci beaucoup Corentin, évidemment à tout à l'heure. Ronan Reagan, America is Back, un récit documentaire écrit par Adrien Cara, assisté de Rebecca De Dante et Claire Tesser, réalisation Fabrice Laine.
Eh bien, je dois dire que ma première émotion ce soir, c'est de me retrouver pour la première fois depuis bien longtemps dans un film en prime time. Monsieur le président de la Convention, monsieur le futur vice-président, ami de cette Convention, mes chers compatriotes de cette grande nation, avec une profonde conscience des responsabilités que me donne votre confiance, j'accepte votre nomination pour la présidence des États-Unis.
Jeudi 17 juillet 1980, Détroit, dans le Michigan, convention nationale du Parti républicain. Ronan Reagan vient donc d'être investi, au passage la pirouette sur son passé d'acteur et la petite blague qui lui met l'audience dans la poche instantanément, Reagan est très doué pour ça. Ce jour-là, il est exactement là où il voulait être. La présidentielle, il y songe depuis 1968. À sa première tentative aux primaires, il doit s'incliner devant Nixon. En 76, il sera un adversaire coriace pour Gerald Ford, qui remportera l'investiture au finish. En 1980, Reagan est prêt. Qu'importe ce que disent les grands journaux de la côte Est, qu'ils le décrivent comme un acteur de seconde zone, complètement dénué d'expérience internationale. On le traite aussi d'extrémiste pour son anticommunisme notoire. On dit également qu'il est bête. Et on ajoute qu'à presque 70 ans, l'ancien gouverneur de Californie est trop vieux. Reagan s'en fiche. Si la campagne commence laborieusement par une défaite cuisante dans l'Iowa, les semaines qui suivent le mettent rapidement en tête des votes et des sondages devant George Bush Senior qui croyait avoir course gagnée. Il vient de s'offrir les services d'un riche avocat Reagan. Ancien conseiller de Nixon et Ford, William Casey prend la campagne en main. Il épargne à Reagan les tentatives de démonstration économique et l'étalement des chiffres dans lesquels, de toute façon, Reagan se prend les pieds systématiquement. Il en fait un débatteur efficace. Il lui fait dire que le président Jimmy Carter est responsable de tous les maux de l'Amérique, mais surtout, il lui fait jouer le rôle de celui qui rendra prospérité, grandeur et espoir aux États-Unis. Ça, Reagan sait faire. Il est parfois gaffeur, volontiers approximatif, il laisse le plus souvent ses conseillers travailler pour lui sans apporter de contradiction. Mais il a de l'instinct, il a une vraie force de conviction, il peut comprendre ce que le pays a envie d'entendre, il sait faire l'acteur. Et l'Amérique de 1980 veut entendre qu'elle est fière et conquérante. Voilà des années qu'elle n'arrive pas à se sortir des effets dévastateurs d'une guerre du Vietnam encore dans toutes les têtes. Elle a vu un président sombrer dans le scandale du Watergate et un autre empêtré dans les conséquences économiques du choc pétrolier d'abord, humilié surtout par la prise d'otage de l'ambassade américaine en Iran. Reagan prend à bras-le-corps cette Amérique qui se sent faible et déclinante.
À ceux qui sont sans compétences, nous vous aiderons à en acquérir de nouvelles. À ceux qui n'ont pas de travail, nous allons créer de nouvelles opportunités, en particulier à l'intérieur des villes où ils vivent. À ceux qui ont perdu tout espoir, nous redonnerons espoir et ils seront les bienvenus dans la grande croisade nationale pour rendre à l'Amérique sa grandeur.
La recette de Reagan pour redonner du souffle à l'Amérique est très simple. Baisser les impôts et investir dans une grande politique de défense nationale. Les États-Unis doivent être forts économiquement, ils doivent aussi damer le pion à cette URSS que Reagan déteste, il l'a déjà prouvé dans son autre vie.
One man has the proven experience we need. Ronald Reagan for president. Let's make America great again.
autre vie de Reagan, la première, c'est à Hollywood qu'elle commence, au milieu des années 30. Reagan est alors commentateur sportif, il se présente à un casting, il est pris. C'est un homme charmeur, il est beau gosse, bien bâti, il est mauvais acteur, Hollywood n'en a que faire. Il enchaînera les séries B mais donnera quand même la réplique à Bette Davis, à Humphrey Bogart ou ici à Errol Flynn dans La Piste de Santa Fe.
What is the captain's pay, Jeb? $38? $40 a month. Say, that's enough to get... Go on, get what? Well, you know, this and that. What are you planning to do with your extra pay? Exactly the same thing as you are, son. Want to grow straws? Not this time. They mean too much. Well, how are we going to handle it?
Cette carrière assez peu prometteuse le place quand même dans la liste des 100 stars préférées des Américains. Il aurait peut-être continué si Pearl Harbor n'avait pas eu lieu pile à ce moment-là. Ronald Reagan n'est pas envoyé au front, il a une très mauvaise vue, mais il aime déjà la politique, il en parle tout le temps, ça lui coûtera d'ailleurs son premier mariage. Et pendant cette guerre, il tourne en rond, il fait quelques maigres films de propagande, puis se fait embaucher par General Electric. Il dirige la Guilde des acteurs, un syndicat puissant, mais le plus souvent du côté des studios. Il est aussi en train de changer de camp. De démocrate comme tout bon acteur hollywoodien, il glisse vers la droite et depuis son poste d'observation de patron du syndicat, même s'il voit d'abord les purges d'un mauvais œil, il sait aussi exercer son anticommunisme déjà affirmé. C'est dans ce contexte qu'il rencontre sa femme, en 1952, Nancy, qui achèvera sa transformation en républicain. La chrétienne fervente, c'est elle. Il s'inscrit à la National Rifle Association, qui encourage le port d'armes, et s'oppose rapidement au mouvement des droits civiques. Devenu gouverneur de Californie de 1967 à 75, il renvoie au travail ceux qu'il nomme les parasites de la protection sociale. Il les appelle même les welfare queens, les reines de l'aide sociale. Une manière particulièrement condescendante de parler des pauvres et des minorités. Il envoie aussi la garde nationale sur le campus de l'université de Berkeley pour remettre de l'ordre après les mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam. Alors oui, les électeurs savent très bien qui il porte à la présidence en 1980. Reagan est un conservateur, radical et intransigeant, plus à droite qu'Eisenhower, que Ford et même Nixon. Il sera surtout élu cependant sur une grande fatigue de l'Amérique vis-à-vis du sortant Jimmy Carter.
This is the NBC Television Network.
Reagan is our projected winner. Ronald Wilson Reagan at 8:15 Eastern Standard Time on this election night, we have projected Ronald Reagan the winner.
Le mardi 20 janvier 1981, à Washington, un cortège de limousines noires remonte Pennsylvania Avenue. Reagan va prêter serment. Pour patienter, il raconte des blagues sur Hollywood à ceux qui l'entourent, pendant que Jimmy Carter attend d'un instant à l'autre l'annonce de la libération des otages de l'ambassade de Téhéran.
Governor, are you prepared to take the constitutional oath?
I am.
If you place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me, I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Now, congratulate you, sir.
Désillusion pour Carter, forcément. Gloire pour Reagan, qui, sans avoir rien fait, en tire les bénéfices. Le soir, on organise comme de coutume une grande fête dans les jardins de la Maison Blanche. On y croise des hommes et des femmes, des grandes familles bourgeoises, de grands entrepreneurs et industriels, des personnalités des milieux mondains, des millionnaires et des producteurs d'Hollywood. L'aéroport de Washington doit fermer au trafic pour laisser se poser les jets privés. Sur Pennsylvania Avenue, c'est un embouteillage de voitures de luxe. Dans cette nouvelle Amérique, la réussite se montre. Le luxe et l'opulence s'affichent sans complexe. Une des toutes premières décisions de Ronald Reagan sera de faire démonter les panneaux solaires installés par son prédécesseur sur le toit de la Maison Blanche. On n'a pas besoin de ça. Nancy Reagan, elle, entreprend de rénover tout de suite la Maison Blanche du sol au plafond. L'Amérique est en récession. Ces grands travaux ont du mal à passer et encore moins la commande d'un service en porcelaine pour plus de 200 000 dollars. Reagan défendra sa femme bec et ongle et Nancy Reagan restera l'une des first ladies les plus populaires des États-Unis. Politiquement, dans cet univers washingtonien qu'il connaît peu, Reagan s'entoure de tous les républicains qui n'ont pas été salis par le scandale du Watergate, souvent recommandé par son vice-président George Bush, expert du microcosme. William Casey, l'ancien directeur de campagne, donc, devient directeur de la CIA. Dans le bureau ovale, trois hommes forment la garde rapprochée, James Baker, Michael Deaver et Ed Meese. Rien ne se décide. Sans eux, à Washington, on les surnomme la Troïka ou les présidents adjoints. Car Reagan n'a aucune intention de se tuer à la tâche. On se moque de lui en disant que s'il a choisi d'exposer un portrait de Calvin Coolidge à la Maison Blanche, c'est parce qu'il était connu pour ses siestes. La journée de travail devra être raccourcie quand on lui apprend que le briefing du Conseil de sécurité nationale se tient tous les matins à 7h30. Reagan répond « Eh ben, il va falloir attendre un sacré moment ». Désormais, on commence à 9h, le président veut ses soirées, extinction des feux 23h, souvent après un film. Le mercredi, le président aime aller faire du cheval sur la base de Quantico en Virginie. Le week-end, il s'évade aussi souvent que possible vers son ranch de Californie. On fait des fiches au président qui les apprend par cœur. Il donne rarement son avis en réunion. Mais il gouverne avec l'idée qu'il peut y avoir des réponses simples à des problèmes compliqués. Et d'ailleurs, lors de l'invasion de la petite île de Grenade en 1983, quand on lui demande pourquoi il a décidé d'y aller, Reagan répond « Eh ben, à la fin, je me suis demandé ce que John Wayne aurait fait. » Le lundi 30 mars 1981, accompagné de ses conseillers et gardes du corps, Ronald Reagan sort du grand hall de l'hôtel Hilton de Washington où il vient de prononcer un discours. Cinq coups de feu. Un conseiller et trois gardes du corps sont touchés. L'un d'eux pousse le président dans sa voiture, ordonne de foncer à l'hôpital. Reagan est blessé à la poitrine, il a le poumon gauche perforé. Le tireur est très vite maîtrisé, il s'appelle John Hinckley. Il expliquera qu'il voulait impressionner son actrice préférée, Jodie Foster, dont il est amoureux. La survie de Reagan tient du miracle. Avant d'être opéré d'urgence, il a le temps de dire aux chirurgiens et aux médecins autour de lui « J'espère que vous êtes tous de bons républicains ». Ce à quoi le chirurgien en chef, démocrate bien connu, répondra « Pour aujourd'hui, monsieur le président, nous sommes tous républicains ».
I'm going to send you up against the best.
Yes, sir.
You two characters are going to Top Gun.
I feel the need for speed.
Wild card. Flies by the seat of his pants.
Yeah, I guess when I see something, I go right after it.
It takes a lot more than just fancy flying.
Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun.
L'Amérique de Reagan est celle des braves, des patriotes, des imageries hollywoodiennes où le héros l'emporte à la fin, il vient d'entrer dans le cadre. À la Maison Blanche, les hommes de la Troïka l'ont très bien compris. Ils s'occupent de tout, surtout de la communication qui devra désormais entourer le président. Quand il sort de l'hôpital, un mois plus tard, il est en tenue de golfeur, il entre à la Maison Blanche d'un pas décidé, le retour courageux du héros qui vient accomplir son devoir de commander-in-chief. L'Amérique adhère à ce scénario. Près de 3 Américains sur 4 ont une opinion favorable du président. Après la tentative d'assassinat, hantée à l'idée d'une nouvelle attaque, Nancy Reagan soumettra désormais l'emploi du temps de son mari à un astrologue et l'agenda de Ronald Reagan sera toujours calé sur les calculs et prédictions de cet homme, y compris les voyages officiels. Corentin Célin, à ce stade du récit sur Ronald Reagan, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit tout de suite, c'est une aisance incroyable, un intérêt particulier pour la forme, pas beaucoup pour le fond.
Oui, c'est ce qui caractérisera toujours Ronald Reagan, c'est cette maîtrise qu'il avait perfectionnée très tôt dans sa vie, en particulier quand il était commentateur sportif. Il avait pris l'habitude d'apprendre par cœur au moins la première phrase de ses interventions parce qu'il pensait que c'était beaucoup plus fluide ensuite, même s'il lisait un papier. Et on voit que ces techniques, il les a reportées sur la politique, aussi bien à la radio qu'à la télévision, et il était d'une efficacité redoutable. Aujourd'hui, chaque Américain qui a connu les années Reagan se souvient au moins d'un discours qu'il a pu prononcer, en particulier le discours qu'il a prononcé lors de la tragédie de la navette spatiale Challenger.
1986.
Voilà, et qui est un discours absolument remarquable, qui n'était pas de lui, mais qu'il avait interprété en quelque sorte à la perfection.
Alors, comédien, cela dit, il est acteur. Est-ce qu'il a été l'acteur de 8 ans de présidence, Ronald Reagan ?
Oui, alors encore une fois, ça, c'est une idée qui a vraiment été défendue par beaucoup de ses conseillers, qui ainsi pouvaient dire qu'ils avaient...
Il avait donné son texte, en gros.
Voilà, en quelque sorte, qu'ils avaient grandement influencé la présidence. C'est exact. On a vu, on en a parlé, la Troïka d'abord, ensuite son quasi-homonyme Donald Reagan, qui fut son directeur de cabinet, ont pensé que ce président n'était là que pour la forme. Aujourd'hui, on nuance quand même un petit peu parce que il avait toujours le dernier mot, il finissait quand même toujours par trancher. Mais comme il ne parlait pas beaucoup durant les réunions, on pouvait avoir l'impression qu'il se contentait de répéter ce qu'on lui disait, ce qui n'était pas toujours exact.
Et là aussi, alors sans déflorer ce qu'on dira à la fin de ce récit, cet art oratoire qu'il a et qu'il maîtrise quand même, pour le coup, c'est bien quelque chose que Trump voudrait avoir et qu'il n'a pas. Le sait-il d'ailleurs ?
Oui, alors ça c'est vraiment effectivement très marquant et ça a pu décevoir, je pense, certains républicains qui ont connu les deux périodes. Donald Trump, sans lui faire offense, n'a vraiment aucun talent oratoire. Dès qu'un discours l'ennuie, en plus, aujourd'hui avec la technologie nouvelle et beaucoup plus perfectionnée des prompteurs, on sent tout de suite qu'il n'y met pas un grand enthousiasme. Tandis que Ronald Reagan avait vraiment une maîtrise de tout ce qui était rapport à la caméra, écran et de l'utilisation aussi, en particulier dans son deuxième mandat, des dix prompteurs, des premiers prompteurs. On voit bien que là, il y a une énorme différence entre les deux hommes et qu'aujourd'hui, même les républicains les plus fervents ne retrouvent pas cette éloquence chez Donald Trump.
Mais est-ce qu'il a été élu, au fond, Donald Trump, pour être le nouveau Reagan ? Est-ce que c'était ça l'espoir de la droite conservatrice, le Reagan 2.0 ou pas ?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a une thèse très en vogue chez les conservateurs les plus radicaux, c'est qu'il y a une sorte de trahison de l'héritage de Reagan par son ancien vice-président Bush, trop mou, trop centriste, et un George Bush Jr. qui était peut-être plus proche dans les idées, mais qui a eu des choix très malheureux, en particulier en Irak. Et effectivement, Donald Trump, il émerge avec cette promesse d'être un nouveau Reagan et de reprendre une véritable révolution conservatrice, de faire une sorte de seconde révolution conservatrice après celle de Reagan.
Et on y viendra donc évidemment au fil de ce récit et aussi à la fin, à tout à l'heure.
She was more like Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique sur France Inter.
Is delayed due to operational reasons until 18 hours 0 minutes.
En août 1981, la moitié des avions sont cloués au sol. 11 000 contrôleurs aériens, tous affiliés au puissant syndicat PATCO, sont en grève. Tous les vols en provenance de l'étranger sont déroutés vers les aéroports canadiens. Les contrôleurs veulent qu'on revoie leur salaire et passer à la semaine de 32 heures. Ils estiment que leurs conditions de travail sont devenues trop difficiles à cause de l'explosion du trafic. Le président Reagan n'est pas un homme patient et la grève chez les aiguilleurs du ciel est surtout interdite. Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, il menace « Tous ceux qui ne reprennent pas le travail seront licenciés ».
Je dois dire à ceux qui ne sont pas venus travailler ce matin qu'ils violent la loi. Et s'ils ne se présentent pas au travail dans les 48 heures, ils auront perdu leur emploi et seront licenciés.
Les grévistes croient au coup de bluff, mais Reagan ne tremble pas. 11 000 licenciements d'un coup, remplacés par des non-grévistes et des contrôleurs militaires. Reagan est blagueur, il peut être chaleureux, il a le sens de la communication et du contact, mais il est sans état d'âme. 7 mois après son arrivée au pouvoir, il est en train de poser, une à une, les pierres de sa révolution conservatrice. Réponse simple à des problèmes compliqués. Pour relancer l'économie aussi, les réponses de Reagan sont simples. Il faut laisser faire le marché. Les journaux appellent ça les Reaganomics, les théories économiques à la Reagan. Elles défient toutes les lois économiques connues. Quelle importance ! Même le vice-président Bush, lorsqu'il se battait aux primaires contre Reagan, avait qualifié ses idées de « voodoo économie », l'économie vaudou. Reagan réorganise d'abord intégralement l'État, il lâche toutes les rênes qui sont pour lui autant de contraintes dans tous les secteurs. Plus d'aide à la scolarisation des enfants handicapés, plus de quotas ratios, plus de classification des pesticides, plus de normes de sécurité sur le transport de produits dangereux. Le budget de chaque agence fédérale plonge, 49 milliards en moins, ce qui entraîne la suppression de plus de 20 000 postes de fonctionnaires. On coupe tout, sauf le budget militaire qui, lui, augmente. Dans la foulée, les têtes des agences d'État tombent pour diriger l'Agence nationale de l'environnement. Le clan Reagan fait nommer un avocat spécialisé dans la lutte contre les régulations écologiques. Reagan s'attaque aussi à l'inflation avec une brutale diminution de la masse monétaire qui mettra d'ailleurs l'industrie en péril, Boeing en particulier. Mais le gros morceau, celui qui porte la marque Reagan, c'est une baisse vertigineuse des impôts sur le revenu et sur les plus-values. L'imposition des plus hauts salaires est ramenée de 70 à 50%. Elle passera à 28% en 1986. Pour briser l'opposition démocrate, Reagan va demander aux Américains d'appeler directement leurs représentants. Certains seront harcelés jusqu'à leur domicile. Et l'image, comme le clap de fin d'un film, est restée célèbre. En 81, depuis son ranch de Californie, Reagan signe l'accord de baisse des impôts en jean et en Santiago. 73% des Américains soutiennent cette politique et adorent le style. D'ailleurs, pour vendre la deuxième vague de réduction fiscale en 86 et contre ceux qui voudraient faire le chemin inverse, Reagan viendra emprunter son sens de la formule à l'un de ses héros de fiction, le John Wayne des années 80, Magnum 44 au bout du bras, le Go Ahead, Make My Day de Clint Eastwood en Inspecteur Harry.
What you doing? Pighead sucker.
Every day for the last 10 years, Loretta there has been giving me a large black coffee. Today she gives me a large black coffee, only it's got sugar in it. A lot of sugar. I just came back to complain. Now you boys put those guns down. Go ahead. Make my day.
2011. Le bilan de cette politique, c'est une baisse du chômage réel mais lente à venir et une dette publique qui s'envole, d'autant que les dépenses militaires viennent s'ajouter à la facture. L'empire du mal. C'est ainsi que Reagan qualifie le régime communiste. Une phrase directement empruntée à George Lucas, qui d'ailleurs n'apprécie que très modérément. Le président a toujours une bonne blague à raconter sur les soviétiques. Il a surtout l'intention de les surpasser militairement au point de leur passer l'envie de toute provocation. Il n'est plus question d'équilibre des forces. Reagan met en marche un vaste programme de réarmement qui multiplie par deux le budget de la défense. Il crée l'IDS, Initiative de Défense Stratégique, que la presse surnomme très vite la guerre des étoiles. L'idée est de combiner des systèmes capables d'intercepter les missiles ennemis depuis le sol et l'orbite terrestre, un bouclier antimissile global qui reste à inventer. En visite officielle au Parlement britannique, Ronald Reagan rappelle que son plan vise à la paix, bien sûr, mais que si l'Union soviétique ne choisit pas le bon chemin, son modèle disparaîtra.
Ce que je décris là, c'est un plan et un espoir pour le long terme. Une marche vers la liberté et la démocratie qui fera du marxisme-léninisme un tas de cendres de l'histoire, comme avant lui, d'autres tyrannies qui étouffent la liberté et musellent la parole du peuple.
La doctrine Reagan, c'est le rollback, le refoulement. Les États-Unis sont désormais prêts à aider militairement, officiellement ou officieusement, tout mouvement de résistance dans le monde qui viserait à faire tomber des gouvernements soutenus par l'Union soviétique. Tout cela devait se traduire à la fin par l'effondrement de l'URSS. La CIA participe donc par exemple à l'aide financière et militaire de la résistance des Moudjahidines afghans face à l'armée rouge. L'intervention la plus célèbre, c'est celle sur l'île de la Grenade, première opération militaire d'envergure depuis la fin de la guerre du Vietnam.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Mrs. Reagan and the family.
Thank you. Thank you. Well, thank you all very much.
Merci beaucoup. Il semble qu'on ait déjà fait ça il y a 4 ans.
Let me just say.
Mais bon, les bonnes habitudes ont la vie dure.
Novembre 1984, Ronald Reagan est réélu avec plus de 58% des suffrages. Un score encore meilleur que celui de 1980. Il emporte 49 des 50 États. Le chômage est doucement en train de baisser, les impôts aussi, mais rapidement, Reagan a redonné le moral à l'Amérique. Elle lui donne les coups des franches pour continuer. Mais au printemps 1985, s'amorce le grand scandale de la présidence, révélé l'année suivante. On découvre un trafic d'armes avec l'Iran, malgré un strict embargo, dont le produit servirait à financer le mouvement des Contras au Nicaragua, opposé au gouvernement sandiniste et soutenu par les États-Unis. Plusieurs hauts responsables proches du président sont inquiétés puis inculpés. Le scandale frôle Reagan. Il devra répondre aux questions de la commission d'enquête lancée sur le sujet, mais son implication directe ne sera jamais prouvée. Tout de même, avec l'Iran Gate, pour la première fois depuis le scandale du Watergate, une enquête du Congrès vise de nouveau un président en exercice.
«
Au mois de mars 1985, Mikhail Gorbatchev remplace Constantin Tchernenko à la tête de l'Union soviétique. Et dès l'automne, il est prévu une rencontre avec Reagan au sommet de Genève. Le président américain a été cousu de notes et de fiches par ses conseillers, mais encore une fois, c'est son instinct qui prend le dessus. La première rencontre est glaciale, on est très mal parti pour réduire l'arsenal militaire de part et d'autre. Mais le lendemain, Reagan propose un déjeuner dans un chalet avec vue sur le lac. Les deux hommes restent seuls pendant plus d'une heure. Reagan abreuve son interlocuteur de blagues anticommunistes et Gorbatchev, semble-t-il, en connaît quelques-unes aussi. Et puis Reagan lui glisse à l'oreille « Nous voici deux hommes, nés dans d'obscurs petits villages à la campagne, dans des familles pauvres et humbles. Et maintenant nous sommes les leaders de nos deux pays et sans doute les deux seuls hommes capables de déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais aussi de garantir la paix. » Une forme de confiance s'installe. Et au fil des mois, on pourra commencer à parler des escalades. Gorbatchev, de toute façon, n'ignore évidemment rien de la situation de son pays. Reagan a compris que quelque chose avait changé et qu'il suffisait désormais de pousser un peu pour que, littéralement, des murs tombent. Deux ans plus tard, à Berlin, Ronald Reagan est place de Brandebourg et ses mots resteront célèbres.
Monsieur le secrétaire général Gorbatchev, si vous aspirez à la paix, si vous voulez la prospérité pour l'Union soviétique et l'Europe de l'Est, si vous cherchez la libéralisation, venez ici, à cette porte. Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur.
Au mois de novembre 1989, le mur de Berlin cède enfin, l'URSS s'effondre sur elle-même, le communisme est vaincu. À la Maison-Blanche, c'est désormais George Bush qui est assis dans le bureau ovale, mais cette victoire est pour de nombreux Américains celle de Ronald Reagan. Lui vit désormais retiré avec sa femme dans leur ranch de Santa Barbara. On dit que les premiers signes de l'Alzheimer étaient apparus déjà dans les derniers mois de son mandat. On ne verra plus Ronald Reagan qu'à de très rares occasions. Et en 2004, Mikhail Gorbatchev assistera à ses funérailles.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique sur France Inter.
Some light on to the fact that it ain't so frightening. horizon, then you're pretty sad. And so much time, my teeth are whitening from the blood we shed while fighting love. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly on me. The same down far the gods we were born to fear. I want you to hold me perpendicularly on me. The same down far the gods we were born to fear. I want you to hold me perpendicularly on me. The same down far the gods we were
France Inter.
President of the United States.
President. Ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Saintès.
Corentin Célin pour éclairer avec nous ce récit sur Ronald Reagan. Alors là, pour le coup, Corentin, sur l'échelle de Donald Trump, Ronald Reagan.
Oh, la meilleure note, 8,5 sur 10 au moins.
8,5, la meilleure note.
Ah, oui.
Vous n'êtes pas très généreux.
Non, je ne suis pas connu pour la générosité des notes, mais mais là, effectivement, on a une ressemblance qui est très frappante. Et puis, la proximité dans le temps fait que la présidence Trump s'inscrit et veut s'inscrire dans le prolongement de la révolution conservatrice de Ronald Reagan. On a aussi deux hommes au parcours atypique qui venaient de manière différente, mais du monde du spectacle, cinématographique dans un cas, télévisuel, mais aussi un petit peu cinématographique dans l'autre. Deux hommes qui ont été détestés, honnis par la gauche, et tous les deux aussi étaient connus, on va dire, et sont connus, en ce qui concerne Trump, pour un exercice du pouvoir pas nécessairement très assidu et pas pour un travail immense en tant que président. Donc beaucoup de points communs personnels, mais évidemment aussi des points communs idéologiques, puisque on retrouve un conservatisme religieux à dominante évangélique qui s'adresse essentiellement à une population blanche. Et donc, on retrouve cela, effectivement, chez ces deux présidents.
Alors, ce qui est intéressant, Reagan dit souvent, d'ailleurs, qu'il a été démocrate avant d'être républicain. Trump, dans les années 80, détestait Reagan, non?
Oui, alors, ils ont un rapport très ambigu, parce que, comme souvent avec Donald Trump, il a d'abord cherché à lui faire, entre guillemets, la cour, à essayer de rentrer dans ses bonnes grâces. Mais, à la fin des années 1980, quand Donald Trump, pour la première fois, alors qu'il est déjà milliardaire, songe à se présenter à la présidentielle en 1988, il fait apparaître un encart publicitaire dans lequel il critique assez durement la politique étrangère de Ronald Reagan. Et surtout, Donald Trump, déjà à cette époque, défend une orientation nettement plus protectionniste, d'une part, et entend faire payer les alliés, donc il accuse d'abuser de la générosité des États-Unis. On voit que ce thème ne l'a jamais quitté. Donc, quoi qu'on en dise, Ronald Reagan était un internationaliste avec la force militaire, on a parlé de grenades, mais Donald Trump, lui, déjà à l'époque, il est beaucoup plus isolationniste. Et donc, on voit qu'il y a une nette divergence là entre les deux hommes.
Alors moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est cette espèce de gouvernance au bon sens, en fait, chez Ronald Reagan. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on entend Donald Trump régulièrement dire « this is common sense », c'est le bon sens, c'est comme ça que je gouverne.
Oui, alors ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ont en commun. Ronald Reagan n'avait jamais de mots assez durs pour les technocrates, pour ces têtes d'œufs qui font des plans et des commissions auxquelles personne ne comprend rien. Et il voulait un certain retour, entre guillemets, à la sagesse de l'homme de la rue. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'ils ont en commun. Avec cependant un très fort paradoxe chez Reagan, c'est un homme qui dénonçait toutes les bureaucraties, tous les technocrates, les experts. Et pourtant, il reste indiscutablement aujourd'hui l'un des présidents, sinon le président, qui a le plus laissé les experts et les technocrates gouverner à sa place, donc ce qui est quand même un fort paradoxe.
Ce qui n'est pas le cas de Donald Trump, qui lui les épuise visiblement, en tout cas en change très régulièrement.
Oui, oui. C'est aussi là la différence, si on cherche les raisons de la note qui n'est pas un 10 sur 10. Ouais. Faut jamais oublier que Ronald Reagan avait quand même été gouverneur de Californie, plus grand état des États-Unis pendant 8 ans. Il avait des équipes qui étaient déjà formées pour gouverner, ce qui n'était pas le cas du tout de Donald Trump, qui était vraiment beaucoup plus un outsider, et qui effectivement, lui, j'allais dire, joint la parole aux actes et rejette toute forme de technocratie.
Il y a autre chose qui m'a frappé dans le récit. Lorsque Ronald Reagan décide de déréguler partout, l'agence de l'environnement, il l'a donne à quelqu'un qui clairement n'est pas un défenseur de l'environnement. Trump a fait exactement la même chose à l'agence de l'environnement en y nommant un climato-sceptique.
Oui, absolument. Alors ça, ils ont vraiment ça en commun. C'est cette idéologie du moins d'État qu'il faut déconstruire, justement, cette bureaucratie mangeuse d'impôts qui ne fait que de la mauvaise dépense publique et qui consomme les impôts des Américains. Et pour ce faire, aussi bien Reagan que Trump n'hésitent pas à nommer en quelque sorte des personnes hostiles à l'État et hostiles à la bureaucratie à la tête même de ces bureaucraties pour en accélérer en quelque sorte le rétrécissement.
Autre chose, Corentin, c'est là moi qui me frappe, on n'en a pas parlé dans le récit, ça fait partie des choses aussi à mettre au crédit de Ronald Reagan, il est le dernier qui a régularisé les sans-papiers à très grande échelle aux États-Unis. Trump est dans le chemin purement inverse.
Oui, alors c'est là où Trump a fait muter...
C'est ça le 8,5 sur 10.
Voilà, a fait muter le républicanisme de Reagan. Il y avait chez Reagan ce conservatisme déjà très clivant, extrêmement dur, on a rappelé la grève des contrôleurs aériens, mais avec toujours comme finalité l'idée de rassembler et qu'on pouvait rassembler autour du rêve américain et que ce rêve américain pouvait être ouvert à tous. D'où la régularisation en 1986 de 2 700 000 sans-papiers, ce qui n'est pas rien. Là, justement, Trump a transformé l'ADN des républicains de Reagan en ajoutant cette dimension nationaliste, nativiste, où le pays se referme sur lui-même et ne veut pas être multiethnique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas du tout dans le logiciel de Ronald Reagan.
Qu'est-ce qu'on dit des fameux Reaganomics ? Est-ce que à la fin, les théories économiques de Ronald Reagan ont marché ? On est pile dans cette fameuse théorie du trickle-down, de la théorie du ruissellement. Si on enlève les impôts des plus riches, ça retombera forcément sur les plus pauvres.
Alors non, de ce point de vue-là, ça a été un échec, puisqu'on sait aujourd'hui que le creusement des inégalités sociales a été considérable durant les années Reagan. C'est creusé de par la baisse des taux marginaux d'imposition, sont creusées les inégalités de revenus. Donc ça n'a pas fonctionné. Par contre, du point de vue conjoncturel, et même si les débuts de la présidence Reagan ont été très compliqués du point de vue économique, effectivement, à la fin, il y a de la croissance et un chômage relativement bas. Mais c'est resté purement conjoncturel. Du point de vue structurel, on a eu une envolée de la dette publique et un creusement considérable des inégalités.
Deux choses encore, Corentin. Est-ce qu'on peut comparer l'Iran Gate de Ronald Reagan avec l'affaire russe de Donald Trump ?
Alors, si on les compare, ce sont deux affaires qui n'ont strictement rien à voir sur la nature des événements, mais ce qui est intéressant, c'est sur la gestion. Car la façon dont Ronald Reagan, qui dans un premier temps avait absolument tout nié, est arrivé par la simple magie de son verbe télévisuel à reconnaître une faute de son administration, mais par la simple reconnaissance de cette faute à s'en exonérer lui-même, est un cas d'école. Alors que justement, dans le cas de Donald Trump, il y a eu cette volonté de ne considérer cela que comme un canular et de ne jamais reconnaître. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant sur la gestion du scandale et comment on l'affronte. Mais il est vrai qu'à l'époque de Reagan, l'atmosphère était quand même nettement plus bipartisane qu'aujourd'hui, donc ce qui a peut-être facilité aussi ce consensus sur l'Iran Gate.
Et alors sinon, expliquez-nous pourquoi il y a beaucoup d'opposants à Trump aujourd'hui qui sont d'anciens Reaganiens très fervents.
Pour deux raisons, on pourrait développer, mais pour deux raisons principalement. D'une part, parce que précisément, il y avait l'idée que le conservatisme réganien était extrêmement dur, mais pouvait être ouvert à tous. D'où une politique migratoire plutôt généreuse. On voit bien qu'avec Donald Trump, on est revenu à un nativisme qui tend parfois à un certain nationalisme blanc dans lequel ne se reconnaissent pas beaucoup d'anciens réganiens. Et la deuxième chose, d'autre part, il y a l'idée que Reagan avait quand même cette magie du verbe. Ce goût pour les discours télévisés, il a donné quelques-uns des plus beaux moments de rhétorique télévisuelle. Et beaucoup de Reaganiens trouvent que Donald Trump, dans sa façon très, outrancière de pratiquer la présidence, n'est pas du tout dans l'héritage de Ronald Reagan.
Merci beaucoup, Corentin Célin. Ronan Reagan, America is Back, un épisode à réécouter en podcast et sur le site de France Inter. Merci aussi à ceux qui ont prêté leur voix à ce récit. Merci à Eric Oswald et à Philippe Pierrard. Et merci à Djoubaka, le programmateur musical de la série.